Les nuits de France Culture.
En 1956, Salvador Dali publiait « Les cocus du vieil art moderne », un pamphlet dans lequel Robert Mallet pouvait puiser pour questionner Salvador Dali lors d'un entretien diffusé en trois parties sur la chaîne nationale. Nous allons en entendre le deuxième volet. Salvador Dali y disait, durant les quelques minutes que durait cette émission, des choses très possiblement sérieuses et profondes sur l'art, et sur l'art moderne en particulier. Mais comme ces choses étaient dites par Dali, était-on prêt à les entendre et à les prendre au sérieux? Sommes-nous prêts aujourd'hui à les prendre au sérieux? D'autant que pour aggraver son cas, Dali confiait à la fin de cet entretien ne pas croire au progrès. Pas plus dans l'art que dans tout autre domaine. Entretien avec Salvador Dali, deuxième partie, diffusé le 4 janvier 1957 sur la chaîne nationale.
La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, pas d'art sans spiritualité, discontinuité de la matière et rôle de l'art abstrait.
Vous avez écrit, Salvador Dali, dans ce pamphlet qui vient de paraître aux éditions Fasquelle, « Les cocus du vieil art moderne ». Je précise qu'il s'agit du vieil art, de l'art vieux, en faisant un jeu de mots. Vous avez donc dit dans cet ouvrage « La peinture est une combinaison de la vision oculaire, de la compréhension spirituelle et de l'habileté manuelle ». Cela paraît tout simple, en effet. Mais pour obtenir cette synthèse, qui aboutit aux œuvres maîtresses, aux œuvres de qualité, encore faut-il savoir doser, et c'est ce dosage que je vous demanderai de bien vouloir préciser ici, ce dosage de la vision de l'œil, de la compréhension par l'esprit et de l'habileté de la main.
En réalité, j'ai toujours dit que quand Velázquez peint, l'image lui rentre par l'œil et lui sort par la pointe du pinceau.
En étant passé par le cerveau.
Alors, dans le cas du cerveau, dans mon cas, c'est naturellement, c'est toute une préparation très structurelle de l'esprit qui est celle de ma propre activité paranoïa-critique et qui fait, qui transforme d'une manière discontinue le résultat sorti par le pinceau.
Dans l'expression « la compréhension spirituelle », vous faites rentrer ce qui est du domaine du cœur, n'est-ce pas? Pour vous, le mot spirituel ne correspond pas qu'à l'esprit. La spiritualité, c'est aussi quelque chose de sentimental.
De viscéral.
Donc, encore différent du sentimental. Le viscéral se situe plus bas dans l'anatomie.
Et du cœur, le considérer en tant que le côté musculaire du cœur. C'est ça ce que je voulais dire auparavant.
Oui, donc vous pensez qu'il n'y a pas de grand art sans une spiritualité.
Je crois que c'est le chemin qui, justement, qui est tracé vers la chose angélique, la spiritualité.
Oui, il faut donc...
La dématérialisation, il y a un processus constant de dématérialisation qui va de l'informe à l'ange, l'ange étant le sommet de la spiritualité.
Oui, pour vous donc, il n'y a pas d'art purement matériel. Il n'y a pas d'art basé uniquement sur une habileté de la main ou sur une faculté de perception de la vision. Il faut encore qu'il y ait cet intermédiaire supérieur qu'est l'esprit.
Et qui est
Je tiens à vous le faire préciser,
absolument,
dans une époque comme la nôtre,
absolument.
Où l'on aurait tendance quelquefois à croire que l'art pourrait se dissocier d'une certaine spiritualité. Pour vous, il n'y a pas de dissociation possible.
Les choses sont consubstantielles.
Et vous pensez que l'expression des peintures les plus différentes, je pense ici à la peinture anecdotique telle que les soviets nous en ont donné l'exemple, est tout de même la preuve d'une spiritualité, puisque à travers cette anecdote, il cherche à magnifier une classe, un labeur ou des individus.
C'est un genre de spiritualité sans transcendance. Et celle de l'art à proprement parler, il a une haute transcendance. Je crois que c'est une question hiérarchique. Évidemment, il y a une certaine spiritualité, mais c'est une spiritualité qui n'est pas transcendante.
Bon, maintenant, je voudrais vous demander de préciser une autre de vos formules tirées de ce pamphlet. Vous dites, peintre, ne t'occupe pas d'être moderne. C'est l'unique chose que, malheureusement, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas éviter d'être. Et vous avez l'air de le déplorer. Aucun peintre ne peut éviter d'être moderne.
Ça, c'est très clair dans mon cas, puisque j'ai toutes les époques, j'aime surtout la Renaissance, comme l'époque que j'ai voulu habiter et produire mes œuvres. Et je considère que l'époque que nous vivons, à part celle du progrès scientifique qui est bouleversant, et d'une décadence et bassesse spirituelle à peu près totale,
oui.
Que d'ailleurs je considère que j'ai l'honneur de vivre. Je la vis avec le maximum d'honneur.
Et vous essayez de sauver la peinture de cette décadence. Vous dites, mon nom était en somme un nom. C'était une vocation, ce nom Salvador. Je suis le sauveteur.
Oui, c'est d'ailleurs Francesc Pujols, que c'est un grand philosophe catalan, qui a dit que Salvador Dalí, comme son propre nom l'indique, est destiné rien de moins qu'à de sauver la peinture moderne de la paresse et du chaos.
Alors je voudrais vous demander comment vous avez voulu sortir cette peinture moderne de l'impasse. Je ne dirais pas du chaos, je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Mais comment vous avez pu, doutant des qualités intrinsèques et des qualités isolées du pointillisme, et d'abord de l'impressionnisme, puis du cubisme, du surréalisme et de l'art abstrait, comment vous avez réussi, vous, à capter dans chacun de ces genres, car il faut bien dire que ce sont des genres, à capter ce qu'il y avait de meilleur pour nous donner une sorte de synthèse, grâce à quoi vous essayez de sauver l'art moderne de cette impasse dans laquelle il s'engage.
Parce que, précisément, dans toutes les démarches valables de tous les ismes et de tout l'art moderne, il y a une seule préoccupation qui est continue, et paradoxalement, c'est celle de la discontinuité de la matière. Les impressionnistes commencent avec la discontinuité de la lumière, qui arrive au paroxysme de leur discontinuité, avec le divisionnisme de cela.
Mais alors, leurs qualités finissent par devenir des défauts quand ils les poussent à leur point extrême.
Toujours, c'est la même idée, c'est le divisionnisme. Après, le cubisme ne fait que hacher
et faire le
divisionnisme.
C'est une disjonction également, oui.
Et dans la peinture abstraite d'aujourd'hui, j'ai toujours dit que des peintres comme Mathieu, c'est des décrets royaux de la discontinuité de la matière. C'est une espèce d'acte notarial de que cette discontinuité existe. Les futuristes, la même chose.
Oui.
Les futuristes n'ont fait que morceler par une espèce de très naïf idée de dynamisme. Ils ont fait compénétrer les objets les uns contre les autres et ils ont créé aussi une discontinuité de la matière. Et quand Marcel Duchamp a fait Le Roi et la Reine traversé par des nuits en vitesse, c'était parce que la matière de ces rois et la reine était forcément discontinue. Sans ça, on n'aurait pas pu les traverser. Donc, dans toute la démarche moderne, il y a une seule idée, à mon point de vue, qui est toujours la même et qui est valable. C'est que, à la Renaissance, on croyait que la matière était continue, et la science moderne nous prouve qu'elle est discontinue.
Oui, mais vous essayez de faire le trait d'union entre cette conception de la continuité qui n'était pas fausse, puisqu'elle a donné des chefs-d'œuvre tout de même, et cette notion nouvelle de la discontinuité qui risque d'aboutir, si elle est poussée à son point extrême, à un cul-de-sac.
Et qui ne contredit pas la continuité, puisque.
Non, mais alors,
maintenant,
il y a même
des tendances scientifiques qui retournent d'une certaine mesure de nouveau à la continuité. C'est-à-dire que dans une vraie œuvre picturale impériale, il faut qu'il y ait des fragments de la matière qui soient compact et continu, et d'autres qu'il soit fluide et qu'il puisse être traversé par tous les corps étranges.
Mais alors pourriez-vous donner un exemple en prenant un de vos tableaux, nous montrer comment vous avez essayé de concilier cette continuité et cette discontinuité?
C'est justement dans le dernier tableau que je suis en train de peindre.
Une Assomption.
Non, le Santiago. Dans le Santiago, il y a un cheval, et alors ce cheval, il est continu est discontinu sur les mêmes surfaces, sur les mêmes endroits.
Comment est-il continu ?
Il est continu parce qu'à une certaine distance, il est absolument visible comme un bougreau, comme un ingre, comme un maisonnier.
Un cliché photographique.
Mais, exactement comme il arrive à Velázquez, si vous approchez un tout petit peu, vous voyez qu'il est formé par des corpuscules qui ont tous les formes les plus étranges, et contradictoires et paradoxales.
Oui, mais est-ce que déjà
réalité, c'est la double image.
Dans le pointillisme, c'était déjà évident. De loin, un tableau de pointillisme donne cette impression de continuité. En s'en rapprochant, plus on s'en rapproche, plus on s'aperçoit qu'il est discontinu. Alors là, ça ne serait peut-être pas ce que vous auriez apporté de plus neuf.
Non, parce que dans le pointillisme, tous les points sont posés les uns à côté des autres bureaucratiquement, exactement comme dans n'importe quelle mosaïque à Ravenne. Tandis que moi, j'introduis que chaque corpuscule, chaque point est un dynamisme.
Ah oui, un dynamisme particulier.
Particulier à lui, et que chaque point, au lieu d'être un petit point bureaucratique,
oui, qui se fond dans l'ensemble,
soit une véritable tragédie.
Il a son autonomie.
Il faut que chaque coup de pinceau soit l'équivalent d'une tragédie d'Eschyle. Et c'est ça ce qu'ils ont apporté, les abstraits, les tout derniers abstraits.
Mais dans l'effort du peintre pour donner cette autonomie à son coup de pinceau, ou dans ce coup de pinceau lui-même ? Dans la qualité proprement picturale, dans la qualité de la couleur, de la ligne, ou parce qu'il y aura un effort du peintre ?
Parce qu'il y aura un effort cosmogonique du peintre d'avoir étudié d'une certaine façon les structures et les formes qui n'avaient jamais existé auparavant.
Et l'art abstrait, dans cette conception que vous avez du divisionnisme, car c'est tout de même une façon de diviser la peinture, de cette discontinuité, quel rôle joue-t-il, lui, l'art abstrait contemporain ?
Joue un rôle expérimental de tout premier ordre, mais, et tout à fait valable.
Oui, mais le fait que vous disiez un rôle expérimental semble être une petite critique, car la peinture doit être un résultat, doit être quelque chose d'effectif, un apport immédiate et décisif, et non pas seulement une expérience.
Mais
vous dites, l'art abstrait est une expérience.
Je considère que ça, c'est propre à tous les moments valables de l'art moderne, depuis l'impressionnisme. Je crois que tous ont été des expériences. Mais dans ces expériences, l'unique chose valable était la discontinuité de la matière. Maintenant, les peintres abstraits, c'est les uniques qui sont valables parce qu'ils continuent cette idée sur un terrain tout à fait particulier.
Oui, mais
c'est des expériences qui doivent amener, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils doivent amener peut-être à des créations de structures angéliques, mais pour le moment, ne le sont pas.
Mais parce qu'il n'y a pas encore de système organisé.
Ni de synthèse, ni même de vision.
De vision d'ensemble,
lucide,
oui.
De lucidité. C'est des êtres qui produisent des documents presque aussi fortuits que ce que, comme aspect, que ce qu'il nous offre certaines images photographiques dans la microphysique.
Les peintres abstraits travaillent au microscope. Ils sont dans le microcosme.
Et les plus bons sont, pour moi, dans des choses de microphysique, des choses infiniment petites.
Ou infiniment grandes. On pourrait supposer que certaines images abstraites sont tirées d'un laboratoire où l'on développe les photos prises par des astronomes, ou au contraire de photos prises
petit, c'est la microphysique, ce n'est pas
Un ciel étoilé peut nous donner aussi cette impression de microcosme.
Ça peut donner cette impression, mais elle est un peu fausse parce que de plus en plus, on voit qu'il y a moins de correspondance de ce qu'on croyait entre le macrocosme et le microcosme, c'est-à-dire le monde infiniment petit obéit à des lois
qui sont très différentes de celles de l'infiniment grand.
Et même contradictoires. Même contradictoires. Cette analogie de le ciel étoilé avec les atomes.
Oui, c'est une analogie à l'échelle de notre vision oculaire, à nous, à l'échelle de notre petitesse.
Et d'une conception très
empirique, il faut bien le dire, de la science. Alors, je voudrais maintenant savoir comment vous êtes arrivé, comment vous croyez être arrivé à cette synthèse.
Je ne crois pas que j'y ai arrivé. Je crois que, d'ailleurs, j'ai toujours dit, et je crois que je suis un peintre assez médiocre dans ce que je produis. Ce que je considère génial, c'est la vision de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire quand je fais un tableau comme mon Assomption, ce n'est pas que je considère que c'est un tableau réalisé. C'est aussi une expérience comme celle qu'ils font les abstraits. Mais il est plus important dans le sens que je montre comment peut-être pourrait être un tableau le jour oui. qu'on saurait le faire oui. et le jour qu'on aurait passé par toute cette expérience abstraite et le jour qu'on aurait vraiment une sensibilité complètement saturée de cette nouvelle réalité de la discontinuité de la matière. Mais c'est comme une espèce de projet. Je dis, voilà, ça pourrait être un peu comme ça. Il devrait y avoir un sujet religieux comme l'Assomption. Cette Assomption devrait être faite par ce chemin des structures empruntées plus ou moins au cubisme gris de Picasso, au futurisme, à la peinture abstraite. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment réalisé, rien de tout cela. Donc je me considère pour le moment un peintre aussi expérimental que le peintre abstrait, mais avec une vision plus impérialiste et géniale.
Plus totalitaire,
plus
bon
totalitaire,
sens du
exactement.
Vous êtes plus unanime, comme on disait à une certaine époque. Mais ce que vous venez de dire, au fond, est un signe de grande modestie, puisque vous dites que votre peinture n'est qu'une expérimentation. Mais est-ce que ça ne jouerait pas, alors, pour tous les grands peintres auxquels nous trouvons, à juste titre, du génie ? Est-ce qu'ils n'auraient pas tenté que des expériences ? Alors, est-ce que l'art ne serait pas toujours qu'une expérience ? Est-ce que l'homme pourrait un jour aboutir à un art qui serait mieux qu'une expérience ? Je ne le crois pas, vous non plus.
Non, mais moi, je considère que au moment de la pleine renaissance, des êtres qu'eux-mêmes étaient des êtres presque comme des anges, comme Raphaël, se sont trouvés soudainement, avec toutes les expériences de la pré-Renaissance, dans leurs mains. Raphaël n'a dû que refaire tout ce que les autres avaient fait et ajouter presque rien.
Oui.
Et ce presque rien, c'était l'ange.
Oui. Mais est-ce que vous croyez que...
Ça, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, parce que nous sommes en train de refaire tout, c'est impossible.
Oui, mais je vais vous poser une question précise. Est-ce que vous croyez qu'à l'époque de la Renaissance, vous... Dali, vous auriez pu tenter l'expérience que vous tentez à l'heure actuelle sans que le surréalisme soit passé avant vous, car le surréalisme était passé avant la Renaissance avec Jérôme Bosch, par exemple. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que toutes les époques d'art, au fond, qui ont l'air de progresser, ne font que se répéter ?
Je crois qu'on met la clip qu'il n'y a jamais, que la répétition est absolument
oui, elle impensable. N'existe pas. Oui.
C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'occuper d'être justement moderne, parce qu'on ne peut pas éviter de l'être. Même si on veut refaire exactement, on veut peindre comme Raphaël, ce sera complètement
oui, mais différent. Alors ma question, je vous l'ai peut-être mal posée, cette question. Est-ce que vous croyez qu'il y a un progrès possible dans l'art ? Voilà.
Moi, je ne crois jamais qu'il y a un progrès dans quoi que ce soit.
La radiodiffusion télévision française vous a présenté Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, pas d'art sans spiritualité, discontinuité de la matière et rôle de l'art abstrait.
C'était la deuxième des trois parties des entretiens avec Salvador Dali, diffusée le 4 janvier 1957 sur la chaîne nationale. À suivre.